nous allons accueillir quelqu'un que je n'ai plus besoin véritablement de présenter, puisque c'est un vieil habitué de ce salon, bien qu'il soit très jeune. Donc, je veux parler de Jean-François Merle, qui est éditeur chez Omnibus, où il a publié, entre autres, un magnifique volume sur des œuvres de Bram Stoker, avec, comprenant naturellement, avec Alain Postulus, que nous écouterons après. Et donc, Jean-François va nous parler de Dracula. Donc,
le roman.
Le roman paraît en mai 97. D'ailleurs, on considère que c'est le dernier roman gothique. C'est comme le dernier roman gothique de ce mouvement littéraire dont Richard nous a parlé, qui est à la toute fin du 18e, et qui en réalité est un avatar du romantisme. D'où le fait que, précisément, la figure du vampire, comme l'a dit Richard, pour une bonne part, n'est pas, dans un premier temps, n'est absolument pas un personnage, en littérature du moins, de littérature populaire. Ça ne deviendra pas par la suite. Alors, le roman paraît en 1897 chez Constable & Co. à Westminster, qui est déjà l'éditeur de Bram Stoker. C'est le quatrième roman de Bram Stoker. Bram Stoker n'est pas un écrivain professionnel. Enfin, Alain va parler tout à l'heure beaucoup plus largement de la carrière et de la vie de Bram Stoker, qui est une vie très intéressante. Mais je vais quand même dévoiler quelques petites choses. Bram Stoker n'est pas un écrivain professionnel. À ce moment-là, quand paraît Dracula, il dirige un théâtre, il dirige le Lyceum Theatre, dont la grande vedette est John Irving, qui est le plus grand. Comment ?
Henry.
Qu'est-ce que j'ai dit ? J'aurais pu dire Washington. Donc, Henry Irving, qui est le plus grand acteur victorien, shakespearien de la fin du 19e, qui est une vedette immense en Angleterre. De ce fait, Bram Stoker est aussi très introduit dans toute la société intellectuelle de Londres. C'est un ami de Conan Doyle, c'est un ami d'Oscar Wilde, c'est un ami de toute l'intelligentsia, enfin d'une bonne partie de l'intelligentsia londonienne. Donc Dracula paraît en 97. C'est le quatrième roman de Bram Stoker, mais en réalité, l'idée de faire vivre ce personnage est né bien avant, est né vers 1890, où Bram Stoker commence à accumuler, comme ça, par bribes, de la documentation. Il lit tout ce qui concerne les vampires. Il se documente donc sur le folklore d'Europe de l'Est. À ce sujet, donc justement, en 1890, il assiste à des conférences du professeur Arminius van Berry sur le folklore fantastique des pays de l'Est, et en particulier aussi d'un personnage historique réel du 15e siècle, qui est Vlad IV, qui est un roi valaque de Transylvanie, qui a lutté contre les musulmans. C'est un héros national, c'est un guerrier, et qu'on a appelé Vlad l'Empaleur. On peut se dire quel horrible personnage, il empalait les gens, pas tout à fait en réalité. Il s'est dit que pour lutter contre des armées qui étaient probablement supérieures en nombre, il fallait leur faire peur. Alors il prenait des cadavres, il avait pris des cadavres d'ennemis sur un champ de bataille, et il les a empalés sur un champ, là, comme ça. Et si bien que quand l'armée est arrivée, il y a eu des gens sur des piquets, ça donne envie. ça donne pas envie à l'autre. Il y a un peu les trucs quand même de... Ça freine, ouais. Mais bon, en même temps, donc, si je puis dire, c'est un coup de marketing absolument génial et qui en fait énormément pour sa légende future. Donc, c'est un héros national, mais en même temps, il a voulu faire peur, il fait peur. Et Vlad Tepes, donc Vlad l'Empaleur, avait été surnommé Vlad Dracul, hein, c'est-à-dire Vlad le Diable, Vlad le Dragon. Hein, et toute cette mythologie, si je puis dire, qui s'est bâtie au sujet de ce personnage réel, de ce personnage historique, Bram Stoker s'en est emparé. C'est emparé aussi de toute la mythologie, donc du folklore. Qui traînait pour les vampires de tout son folklore de l'Est. Il a lu aussi tout, Bram Stoker, donc il arrive assez tardivement donc dans le 19e, donc le roman gothique, là, déjà le roman noir, hein, a beaucoup balayé le thème, donc il a lu Nodier, donc il a lu Polidori, il a tout. Et en quelque sorte, dans ces années qui ont servi à Bram Stoker de maturation, en quelque sorte, de ce roman-là, parce qu'il s'est mis au travail assez tard, hein, sur le roman strictement dit. Dans un premier temps, il l'a laissé macérer en lui, tout en se documentant. Par ailleurs, hein, on lui raconte lorsqu'il est en vacances à Whitby, sur la côte dont je pense que tu vas dire peut-être deux mots, oui, donc il est en vacances à Whitby, qui est un port, et où il passe des vacances en famille, et on lui raconte l'étrange anecdote d'un bateau russe qui s'était échoué sur la plage à Whitby. Et lorsqu'il y avait une tempête, d'où le bateau il s'échoue, on va voir pour récupérer les survivants, personne. Mince. Et c'est, bon, on ne connaît pas l'histoire, c'est un fait, c'est un fait divers, mais qui va donner l'idée à Bram Stoker, qui va donc réutiliser, qui va remettre dans son roman pour faire cette scène absolument magnifique, qui est l'arrivée de Dracula sur les côtes anglaises. Donc, tout en publiant beaucoup, tout en faisant toutes ses recherches au British Museum, tout en se documentant, tout en discutant avec pas mal de monde, en s'emparant de plein de faits ordinaires qu'il a pu entendre, des faits divers, etc. Bref, il va commencer petit à petit à bâtir ce roman qui vraiment le possède en quelque sorte, puisque c'est toi qui signale ça dans sa biographie. Un jour, il se réveille en pleine nuit, il y a sa femme qui lui dit « qu'est-ce qui se passe ?»« Ben, j'ai fait un cauchemar, j'avais l'impression que quelqu'un se penchait sur moi, quelqu'un qui ressemblait à ci, à ça, etc. » Donc, si vous voulez, il y a toute l'élaboration du roman est une élaboration aussi bien consciente qu'inconsciente. D'une part, il travaille énormément, donc il se documente, il amasse de la documentation, il amasse des faits divers, des histoires pour nourrir son futur roman, mais en même temps, et malgré lui, hein, il y a ce personnage qui commence en lui-même à prendre réellement une ampleur, à prendre réellement une figure humaine, enfin humaine. D'ailleurs, le personnage en lui-même, lorsqu'il fait la description du personnage du comte Dracula, on y voit le visage aussi d'un personnage qu'il a connu au Buffet Club, qui est un grand explorateur, qui est Richard Burton. Le portrait de Richard Burton, tel qu'on le connaît, d'ailleurs il a été peint, il a été photographié, et le portrait que donne Bram Stoker du comte Dracula, enfin, je ne vais pas dire que ce sont les mêmes personnages, mais ce sont les mêmes traits, c'est-à-dire coupé au ciseau, un regard perçant, une tête Il y avait une sacrée gueule, hein, Richard Burton, et les peintures, et, hein, je sais pas, mais il y avait peut-être un son extraordinaire. Richard Burton était un explorateur qui a découvert les sources du Nil, c'est ça, mais du Niger.
Du
Niger, qui est rentré à la Mecque, les chercheurs, qui est rentré à la Mecque, les premiers Européens rentrés à la Mecque, déguisés en pèlerin, enfin voilà, c'est un avant qui avait une joue percée, mais c'était pris une lance. Et puis, et d'ailleurs, pour faire peur aux petits-enfants. Enfin bref, c'est un personnage très en couleur, très très célèbre parmi les en Angleterre, en tout cas. Arrivons très tard, dans le 19e, ayant amassé beaucoup de documentation, ayant tout lu, s'est emparé par ailleurs de cette figure légendaire de Vlad. Hein, finalement, le grand, immense mérite de Bram Stoker est d'avoir fait la synthèse de toutes les histoires, et de l'avoir fait si bien que après, c'était plus la peine de faire vraiment évoluer le personnage du vampire, le personnage de Dracula, tous les codes, tous les archétypes que l'on connaît, qu'il n'a pas de reflet dans le miroir, que l'ail le repousse, que le crucifix d'argent le repousse, qu'il peut être tué avec un pieu dans le cœur, et il faut le décapiter et également, enfin, bref, tout ce qu'on peut imaginer aussi, ainsi que c'est aussi un personnage, c'est un aristocrate, hein, c'est un aristocrate avec un charisme fou, un charisme dangereux, mais quand même un personnage très charismatique. Bref, tout ça existait un petit peu partout, mais Bram Stoker réellement a réussi à en faire la synthèse d'une façon absolument magistrale. Autre coup de génie de la part de Bram Stoker, c'est d'avoir donné à la forme de son roman une forme épistolaire. Ce sont des lettres. Hein. Ce qui a un immense avantage, c'est que ça donne une rapidité à la narration, ça donne quelque chose de terriblement direct. C'est-à-dire que les gens racontent. Hein, au début, Jonathan Harker, quand il arrive en Transylvanie, au début du roman, Jonathan Harker est un jeune avoué de notaire, je crois, hein, qui va en Transylvanie, pardon, pour affaires. Il va voir un comte, il est mandé par un comte pour s'occuper de ses affaires très très riches. Donc il est invité dans un château très mystérieux. Alors il y a les paysans du coin qui sont totalement effrayés de voir que quelqu'un va dans ce château dans lequel les pires atrocités sont racontées. Enfin bref, c'est quelqu'un qui fait peur. Jonathan Harker, qui ne parle pas la langue, il ne comprend rien, il y va. On lui a quand même donné un petit crucifix, on lui a quand même donné un petit pouce d'ail, etc. Et bon, il est là, il fait affaire avec ce mec dont il bosse l'ami uniquement. Il est fasciné par ce personnage, qu'il trouve quand même un petit peu étrange. Dans la journée, il ne le voit pas. Et pour cause, tout le monde le sait, hein, mais lui, il ne le sait pas. Et bon, il y a des tas de trucs curieux qui se passent, en particulier quand il se rase, il a son petit miroir, et puis il s'aperçoit que son interlocuteur ne se reflète pas dans le miroir. Je trouve ça un peu louche. Et puis au bout d'un moment, surtout, il se rend compte qu'il est enfermé, qu'il est en prison. Et puis en regardant par la fenêtre, il voit qu'il y a quatre cercueils qui partent sur les routes. Je ne sais pas trop ce qui se passe, il est enfermé dans ce château, dont il va s'échapper, et il va errer un moment dans la campagne transylvanienne, pas forcément, et à moitié fou, quand même, et il va être en temps de fièvre, etc., il va se faire soigner, mais pendant ce temps, les quatre cercueils en question voguent sur le Déméter, en direction de l'Angleterre. Alors, il se passe des trucs horribles sur ce...
Oui, non, il se passe rien, en réalité,
sur le bateau, sinon que tout le monde devient dingue. Ouais. Et tout le monde se fout à la flotte. Et le bateau arrive donc à la hauteur de Whitby, s'échoue. Les gens racontent lors d'une tempête, les gens racontent qu'ils ont vu une sorte de loup, de singe, de chien, on sait trop, qui courait sur le long de la plage. Et effectivement, on ne trouve rien ni personne dans le bateau. Mais nous, lecteurs, nous savons que Dracula a débarqué sur les côtes de l'Angleterre et qu'on va voir ce qu'on va voir. Pendant ce temps, Jonathan Harker, lui, il est toujours en Transylvanie. Il est malade comme un chien. Il y a une missive qui revient en Angleterre et sa fiancée, Mina, va le rejoindre en Transylvanie. Pendant ce temps-là, des choses ont déjà commencé à se passer en Angleterre. Il y a une amie de Mina, qui s'appelle Lucie, qui probablement s'est morte. Enfin, nous on le sait, mais enfin, bon, elle tombe malade, elle est dépérie, elle meurt. Elle est enterrée d'ailleurs quand Mina et Jonathan Harker reviennent en Angleterre. Parallèlement aussi, il y a aussi un patient d'un hôpital psychiatrique qui devient de plus en plus dingue. Donc nous, on va apprendre aussi que c'est une sorte de, comment dire, de miroir. Hein, c'est quelqu'un qui à la fois est aux ordres, enfin, de toute façon magique en quelque sorte, mais qui est à la fois aux ordres et très influencé par le pouvoir immense que peut avoir Dracula, qui devient de plus en plus puissant au fur et à mesure où il voit le sang de ses victimes, et qui montre des troubles de plus en plus manifestes, et telle enseigne que l'on fait venir au chevet de cette pauvre Lucie qui va mourir, un personnage qui va devenir un personnage central du roman, qui est le professeur Van Helsing. Professeur Van Helsing, qui lui connaît bien le conte Dracula, qui connaît bien tout ce qui est la vampirologie, et qui va aider Jonathan Harker, qui est un innocent, en quelque sorte, hein, et sa fiancée, qui maintenant est sa femme, Mina, à pourchasser Dracula. Et en fait, toute la fin, enfin, c'est pas la fin, mais mettons toute la moitié du roman et la poursuite du vampire par ces trois personnages-là. Ils arriveront à leur fin, mais très rigolement, difficilement, évidemment, puisque Dracula est quand même un personnage très puissant, très malin, très intelligent, qui évidemment a des siècles et des siècles et des siècles d'expérience derrière lui, qui est très puissant, très riche, mais quand même, qui a quand même des faiblesses, et heureusement d'ailleurs, puisque le roman se termine quand même par la victoire des gentils. Bien, bon, voilà, le roman apparaît. Finalement, Bram Stoker a mis absolument tout ce qu'il avait dans le ventre pour faire ce roman-là, qui est un roman magistral, donc il a mis 7 ans, je ne vais pas dire à écrire, mais à le maturer, puis à l'écrire. L'ouvrage paraît, l'ouvrage est très très bien reçu par la critique, très plutôt bien reçu par le public, mais encore une fois, ce n'est pas un roman populaire, donc il va avoir du succès, mais ça ne va pas être un best-seller. Ça va être un best-seller, peut-être, au milieu des lettrés. Finalement, ce n'est pas une population très, très nombreuse. Mais il le fait. Mais en revanche, tout le monde s'accorde à dire que c'est un roman dont la narration est parfaite, aidé, comme je l'ai dit, par la structure épistolaire du roman qui fait qu'il n'a absolument aucun gras. C'est vraiment un roman en cours aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, Dracula se lit merveilleusement bien. C'est un roman qui n'a pas du tout vieilli. Et pour preuve, hein, ça reste un classique très très lu aujourd'hui. Donc, le roman paraît, le roman a du succès, mais le mythe du vampire, le mythe de Dracula n'est pas encore là. D'ailleurs, quand Bram Stoker meurt en 1912, Il y a un article dans le Times qui signale une nécro, hein, la nécro de Bram Stoker, dont on dit, voilà, vient de mourir. Bram Stoker, qui fut le directeur de l'Eastern Theatre, et puis qui dit nommément, son œuvre principale restera Personal Reminiscences of Henry Irving, c'est-à-dire un énorme livre qu'il avait fait, je crois, en 1902, ou 1905, 1902, je crois. Non, c'est 1905. En 1905, qui est un énorme livre que Jean-Pierre m'a montré, que j'ai eu entre les mains. C'est un énorme livre en deux volumes avec plein d'illustrations magnifiques qui sont les souvenirs de Bram Stoker sur son ami Henry Irving, le grand acteur victorien. Voilà, si vous voulez, en 1912, voilà, de Bram Stoker, on se souvient qu'il a été un ami de Henry Irving. Fermez le banc. Pas du tout, car Bram Stoker et son love, Florence Stoker, finalement va faire beaucoup, à la limite sans vraiment faire exprès, mais qui va faire beaucoup pour la gloire future, à la fois du roman, mais surtout du mythe. La première des choses, c'est que d'une part, elle fait paraître en 1914 un chapitre que Bram Stoker avait écarté du roman, qui était un chapitre qui s'appelle donc L'invité de Dracula, la nouvelle s'appelle comme ça, mais qui était un chapitre qui devait ouvrir le roman, mais qui en tant que nouvelle se tient très très bien, qui est finalement une sorte de mise en bouche, hein, de tout ce qui va se passer. C'est une sombre scène dans un cimetière, aussi loin que je me souvienne, qui est une nouvelle qui de toute façon en soi déjà existe. Hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Bram Stoker avait choisi, probablement avait dû considérer qu'elle n'était pas très très utile pour démarrer le roman. J'ajoute, et c'est juste une parenthèse, c'est que Bram Stoker est un nouvelliste exceptionnel. Hein. Il a écrit des romans très bons, d'autres peut-être un peu plus pesants, mais surtout, toutes ces nouvelles sont magistrales. Alors ça, c'est un conseil de lecture à tout le monde. Faites fin de la parenthèse. Donc, fait paraître en 1914 l'invité de Dracula. En 1922, Murnau fait paraître son célèbre Nosferatu le vampire et il prend un procès dans la figure de Florence Stoker. Pour abus de copyright, abus de propriété intellectuelle, on dirait aujourd'hui, puisqu'il n'a absolument pas demandé les droits de Dracula à Florence Stoker. En transformant Dracula par Nosferatu, ce que les juristes n'ont pas considéré que c'était un argument très probant. Tout le monde a dit que c'est effectivement un total plagiat. Génial, mais un plagiat quand même de l'œuvre du roman de Bram Stoker. Il y a l'arrivée à Whitby, pareil. Enfin, c'est plus un roman, enfin, c'est un film assez expressionniste en même temps. Il y a beaucoup d'humour aussi dans la figure de Nosferatu. Bref, Florence Stoker gagne son procès. La demande était que la totalité des bobines et des films soient détruits. Et heureusement pour les cinéphiles, il en est au moins resté une, puisque maintenant c'est un film que l'on connaît, qui est un grand classique du cinéma. La deuxième chose qui a vraiment lancé le personnage de Dracula et finalement du vampire dans toute la littérature imaginaire du XXe siècle, c'est quand Florence Stoker cède les droits en 1924 à Hamilton Dean, qui est un grand acteur, pour faire des adaptations théâtrales. Et ces adaptations théâtrales vont avoir un succès considérable et partout dans le monde, partout où il se produit, qui va lancer l'engouement autour de Dracula et du vampire. Très rapidement, le cinéma en braille, hein, puisque Todd Browning va faire un film dès le début des années 30, enfin, etc., etc. C'est parti. C'est parti. Mais donc, on voit donc que ce roman qui paraît en 97, qui est un roman qui finalement est un roman synthétique, hein, construit quand même avec le génie propre de Bram Stoker, à la fois de cristallisation de ce mythe, d'une part, et deuxièmement de forme, hein, puisque c'est pas du tout un roman ennuyeux, c'est un roman passionnant de bout en bout, bien que assez épais quand même. Hein, et sort, a du succès, mais enfin pas tant que ça. Enfin, pas tant, pas. C'est, il a du succès, mais pas un succès définitif. Donc, c'est en deuxième temps, si vous voulez, ce roman a eu une deuxième vie à partir des années 20, hein, qui finalement est celui que l'on connaît aujourd'hui. Et sur lequel on est revenu ensuite au roman initial. Il a été traduit en France en 1920 sous le titre Le Nom Mort, mais dans une version coupée, hein, une version tronquée. Sans doute très, très adapté, et il faudra attendre, puisqu'il reparaît ensuite chez Marabout, donc il faudra attendre largement l'après-guerre pour qu'il soit publié en version intégrale. Il a eu plusieurs traductions après, hein, mais enfin il faudra attendre l'après-guerre pour que vraiment on connaisse l'intégralité du texte de Bram Stoker en France. Voilà, j'ai fini.
Merci beaucoup Jean-François. Des questions sur Dracula.
Quand tu parles de la